Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des trois coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques, comme au temps de la TSF. C'est la période de Noël, enfin, c'était hier. C'est le moment où les âmes seules se sentent plus seules. Alors peut-être qu'un simple coup de fil et une regarde attentive. Quoi ? On dit que ça vous rappelle quelque chose ? Une histoire de Père Noël pour être catholique ? Ouais, vous avez raison. Voici ma version personnelle de l'histoire. C'est juste un peu moins drôle. Quoique... Allez, frappons discrètement les trois coups. Ouverture du rideau.
SOS Nuit, Anne-Marie, à votre écoute.
Bonjour, bonsoir, je sais pas comment on dit à 2h du matin.
Peu importe, il n'y a aucun protocole à suivre, je suis juste là pour vous écouter.
Bien, Anne-Marie, c'est ça ?
C'est exact, comment je puis vous aider ?
Madame, mademoiselle ?
Peu importe, Anne-Marie, c'est tout.
C'est un peu cavalier de vous appeler par votre prénom, on se connaît pas...
Je suis seulement là pour vous écouter. Que vous m'appeliez par mon prénom ou pas n'a strictement aucune importance. La seule personne qui compte, maintenant, c'est vous.
Entendu, Anne-Marie. Pas de questions personnelles, j'ai compris.
Bien. Alors, je vous écoute. Allô ? Vous êtes toujours là ?
Ah oui, oui. Rassurez-vous, j'essaie juste de mettre de l'ordre dans mes idées.
Bien. Prenez tout votre temps.
Ah, c'est curieux, j'ai l'impression que votre voix m'est familière.
C'est sans doute parce que j'ai une voix très ordinaire.
Ouais. Voilà, je m'appelle Cédric, j'ai 53 ans. J'étais métallo, vous savez ce que ça veut dire ?
Oui, très bien. Ouvrier métallurgiste, c'est ça ?
Ah oui, c'est bien ça, à Gondrange, les hauts fourneaux, les feux continus, les 3-8, enfin... Ça, c'était dans les belles années. Depuis, ça a bien changé. C'est foutu maintenant. Vous ne croyez pas ?
Peut-être, Cédric. Je n'en sais que ce que disent les journaux.
Ah, ouais. Ah, vous auriez connu la vallée à la belle époque. Toutes ces usines, la fumée, l'odeur du coq brûlant, le goût du métal. Enfin, on râlait, bien sûr, parce que les bagnoles étaient toujours dégueulasses à cause de la suie. Les maisons aussi, même nous, après la douche. Il restait toujours l'odeur et un bronzage pas très catholique. Vous comprenez ?
Oui, Cédric, je vous écoute.
Même ceux qui travaillaient pas au feu avaient cette odeur. Enfin, heureusement pour nous, sinon, pour les nanas, ça aurait été Tintin. Un mec bien blanc et bien propre, il les aurait tout emballés.
Et vous, Cédric, avec les filles ?
Ah, vous savez, à 20 ans, j'étais plutôt beau mec. La fonte, c'est mauvais pour la peau et pour les bronches, mais c'est bon pour les muscles. Quand on tire sur la poche, faut pas pleurer, l'huile de coude. Sans compter quand on y laisse des litres de sueur. Un régime pareil, ça vaut toutes les salles de muscu du monde. Allez, biscotto. Les nanas, elles aiment bien, pas vous ?
Oui, probablement.
Faites pas votre... excusez-moi.
Non, c'est rien. Poursuivez, Cédric.
Bref, un jour, j'ai rencontré Sylvie, dans un bal, du côté de Longwy. Vous connaissez Longwy ?
Oui, j'y suis déjà passé. Et puis, je connais les émaux, bien sûr.
Ah, les émaux. C'est beau, les émaux. Chez mes parents, il y en avait partout sur les murs de la salle à manger. Enfin, c'est drôle de dire salle à manger, parce qu'on n'y mangeait jamais. On mangeait dans la cuisine, pour pas salir les tapis et pour pas abîmer la table. Ouais. On s'en fichait. L'important, c'était que la soupe soit bonne et qu'il y ait au moins un petit morceau de viande dans l'assiette.
La vie était dure, à cette époque.
Est-ce que c'était si dur par rapport à maintenant ? Je ne sais pas. Je me souviens pas avoir entendu parler de chômage, de boîtes qui ferment. Il y avait du boulot pour tout le monde. Des chômeurs, c'était juste des feignants. C'était tout. Mon père gagnait pas des milliers des cents, mais on avait à manger tous les jours et des habits neufs quand les nôtres étaient trop usés.
Vous regrettez cette vie ?
Ouais, quand même pas. À 5 dans 2 pièces, avec l'eau sur le palier et des chiottes dans la cour... On peut rêver mieux comme palais des mille et une mille ans.
Certes, mais au niveau chaleur humaine.
Ah oui. Oui, vous avez sans doute raison, mais je voulais une autre vie pour ma famille, alors j'ai bossé dur. Très dur. J'étais pas doué pour les études, alors j'ai grimpé les échelons, comme on dit.
C'est tout à votre honneur.
Ouais. J'avais envie d'arriver, alors j'ai pris des cours du soir pour devenir chef d'équipe. Oh, c'était pas facile, hein. J'ai lu des bouquins, j'ai pioché les maths, j'ai réussi l'examen. Et après, seulement après, j'ai pensé à l'avenir, une femme, une maison, des gosses.
Allons, Cédric, laissez-vous aller. Nous avons tout notre temps.
Le son de la différence.
Quand j'ai rencontré Sylvie, elle avait 16 ans. J'en avais 24. Elle était belle comme une poupée, une vraie princesse. Et j'étais pas seul sur le coup. Il y avait plein de petits mecs qui tournaient autour. Et puis, pas seulement des petits.
La concurrence était dure ?
Ah, ça, c'est sûr. J'ai même bien cru à certains moments que c'était foutu. Enfin, heureusement, j'avais ma bagnole. Et c'est assez radical. C'est pourtant pas une Mercedes, bon, juste une 4L. Mais ça suffisait pour le prestige. Les petits mecs du lycée avec leur mobilette, ils pouvaient pas lutter, surtout en hiver. La Sylvie, elle préférait être bien au chaud sur la banquette plutôt qu'à scailler les miches sur la selle biplace.
Oh, comme je la comprends.
J'habitais encore chez mes parents à l'époque et les voisins faisaient un peu la gueule à me voir trimballer la gamine. Mais personne n'a osé faire une seule remarque à ma mère. Et puis après, la mère de Sylvie est venue à la maison. Alors, c'est comme qui dirait, devenu normal, même si son père gueulait dans tous les bistrots que sa fille était une traînée et moi un macro. Était comme ça le père Grabert. Une vraie calamité domestique.
Ça devait être dur pour la petite jeune fille.
La petite jeune fille, elle se foutait complètement de la vie de ses parents. Au contraire. Je crois même que ça lui servait d'alibi dans la lutte perpétuelle contre ses vieux. Si vous n'aviez jamais entendu parler de la crise d'adolescence, fallait l'écouter à l'époque.
Elle vivait avec vous ?
Quand même pas. Je la prenais à la sortie du bahut et je la ramenais tous les soirs après dîner. Le week-end, on se faisait une petite sortie en amoureux dans les Vosges, en Alsace, en Belgique et même à Paris. Elle avait 16 ans, mais elle faisait pas spécialement en gamine. Je la raccompagnais le dimanche soir. Ça a duré 3 ans, comme ça. Et puis, elle est tombée enceinte.
Aïe, le coup dur ?
Pas vraiment. Elle avait eu son bac. Elle n'était pas trop motivée pour l'IUT. Et puis, faut dire qu'on prenait pas toujours des précautions. Alors, un peu plus tôt, un peu plus tard, on a décidé de se marier, de prendre un appart. Quand le petit est arrivé, tout allait bien. J'étais passé chef d'équipe. On avait trouvé un 3 pièces, pas très loin de l'usine. Même le père Grabert adorait son petit-fils.
L'image même du bonheur, en somme.
Ça, c'est sûr. Hein. Pendant quelques années, on a pris du bon temps.
J'imagine. Votre femme devait être heureuse avec son petit bout. Vous aussi, non ?
Ah ouais, bien sûr. À l'arrivée du deuxième gosse, Sylvie a décidé qu'elle voulait une maison avec un jardin, un chien. Voilà. J'étais pas contre. Ça tombait plutôt bien, puisque l'usine commençait à vendre les maisons d'ouvriers. Vous savez, ces petites baraques en briques, toutes identiques, alignées sur des kilomètres.
Oui, je vois très bien. J'ai des amis qui habitent ailleurs.
On en a acheté une double. 2 carrés de pelouse et la place pour garer la voiture devant. 2 jardinets derrière, 3 chambres, un grand living. C'était dans nos moyens à l'époque. On s'est endetté sur 25 ans. On était encore jeunes, plein de santé, du boulot assuré pour la terminer. J'ai fait embaucher Sylvie dans les bureaux.
Bien, très bien tout ça.
Ah, vous connaissez la suite. Hein. Usinor est devenu Solac. Solac est devenu Sidelor. Sidelor est devenu Sassilor. Sassilor est devenu Arcelor. Nous, on s'en foutait que ça change de nom. À chaque fois, ils repeignaient la façade des bureaux avec le nouveau logo. On cousait un nouveau badge sur nos bleus et on collait un nouvel autocollant sur nos casques. Les feux brûlaient toujours, la fonte sortait toujours aussi brûlante, quel que soit le nom. Et chaque mois, la paye tombait, la banque était payée, les gosses en bonne santé, 2 voitures, tout le confort.
Le rêve du français moyen.
L'aîné a fini ses études, il s'est installé avec sa copine, le deuxième est entré dans l'armée. Il ne restait plus que la petite dernière. C'était la belle vie. 15 jours au club l'été, 15 jours au ski l'hiver. On était presque au bout du pré.
Et alors ?
Bah, au début, quand Mittal a racheté Arcelor, il y a bien eu des rumeurs. Les syndicats ont appelé à la vigilance. Mais comme à chaque fois que l'usine changeait de nom, on aurait dû se méfier parce que cette fois, ils n'ont pas repeint les bureaux, ils n'ont pas changé les logos sur nos bleus, enfin, pas tous. Mais ça marchait quand même. L'acier continuait à sortir de l'usine et la paye tombait à date fixe. Et puis...
Et puis ? Eric, vous êtes toujours là?
Et puis, ça a commencé à déconner. Réduction d'horaire, arrêt d'un premier four, rumeur de licenciement, des petits questionnaires sournois distribués par la direction pour savoir qui serait volontaire pour un départ volontaire. Et première grève, première manif. Un autre four qu'on arrête pour maintenance, paraît-il. Les politiciens locaux qui viennent prendre la température. D'autres qui viennent pour vous rassurer sur notre emploi. À un moment, on y a presque cru à leur connerie. Gel des salaires, bon, pourquoi pas, si on doit garder notre boulot. Réduction des effectifs, chômage partiel, ouais, ok, on survivra. Et puis, il y a eu le premier plan social, les barrages, le piquet de grève, l'odeur acre des pneus qui brûlent jour et nuit, le beuglement des mégaphones, les slogans haineux, le mépris pour les jaunes qui veulent continuer à travailler. C'est bien beau la grève, hein. Bien généreux la solidarité, mais quand t'as des crédits sous le dos, une baraque à payer, un salon de cuir, un écran plat, l'ordinateur de la gamine, puis le quotidien. Même chez Leclerc, ils font pas des prix pour les chômeurs.
Il vous restait la chaleur du foyer, l'amour de votre femme et de vos enfants.
Ah, vous savez, la chaleur du foyer, et même l'amour des siens, quand on a perdu un quart de son pouvoir d'achat, c'est bien connu. En temps de disette, les chevaux se battent dans l'écurie. La voiture de ma femme est tombée en panne, ça devait arriver. Et qu'on n'avait pas les moyens de la faire réparer, même chez Coffelem, ils voulaient plus prêter au Mittal. Et puis, ils ont commencé à dégraisser dans les bureaux. Sylvie s'est retrouvée à temps partiel, moi à trois quarts, elle à mi-temps. C'était ric-rac pour les fins de mois, mais bon, on pouvait s'en sortir.
C'est sûr que ça ne devait pas être facile. Mais vous restez un toit sur la tête.
Qu'est-ce que vous en savez, vous? Bien au chaud derrière votre téléphone. Qu'est-ce que vous en savez du chômage, hein? De la précarité. Des fins de mois qui commencent le 15. Des angoisses quand votre gamine vous montre la semelle de ses golas en pleurant. Les cris, les disputes qui éclatent à propos de tout et de rien. Qu'est-ce que vous savez de la misère programmée? La misère attendue, crainte, mais inexorable. Qu'est-ce que vous savez des lettres de la banque qui avise, menace, suspend, brandit le spectre de l'huissier, celui de la justice? Non, je dis...
Vous écoutez, c'est bien, c'est pas plus ça.
Sylvie, elle n'était pas méchante. Mais elle savait ce qu'elle voulait, et là, ce qu'elle voulait, c'était revivre comme avant. Manger à sa faim, acheter toutes les golasses du magasin, faire les soldes, s'acheter la petite robe noire qui lui va si bien et le beau manteau rouge qu'elle a repéré à Metz. Ce qu'elle voulait, c'était prendre son samedi pour courir les boutiques avec sa gamine et revenir le coffre chargé de paquets. Dépensière? Non, pas du tout. Juste une femme avec des envies de femme. Alors forcément, les restrictions budgétaires... Elle est devenue un peu plus sombre, un peu plus agressive, tout en m'assurant qu'elle savait bien que c'était pas de ma faute.
Et alors?
On s'est engueulé. On s'est engueulé un peu plus chaque jour. Je me suis mis à rentrer de plus en plus tard, avec un détour par le piquet de grève et ses inépuisables ressources en bière, en vin rouge, en esprit malsain. C'était pas trop bon, ni pour le moral, ni pour la santé, ni pour mon couple. Un soir, j'ai tellement forcé que j'ai balancé la voiture dans un arbre. Les flics m'ont ramassé, il paraît que j'avais presque 1,5 g. Plus de bagnole, plus de permis, plus de boulot. Quand je suis rentré, Sylvie n'a rien dit. Elle a bouclé deux valises, une pour elle et l'autre pour la petite, et elle a appelé son père. Le vieux est arrivé dans sa grosse Mercedes de retraité de la sidérurgie. Ah, je suis presque sûr qu'il était aussi bourré que moi. Mais lui... Il avait de l'argent de la banque et une voiture en état de rouler.
Vous auriez dû courir après. Je suis sûre qu'elle attendait que vous veniez la rechercher, la reconquérir. Les femmes adorent quand on les supplie.
Bah non, je suis resté debout devant la porte, les bras ballants, pendant que la gamine me faisait coucou de la main par la vitre arrière.
Et depuis, vous n'avez rien fait, rien tenté?
Elle a pris un avocat, on va vendre la baraque, enfin on va essayer. Il n'y a plus personne qui a les moyens d'acheter une baraque dans le pays. Je me suis fait porter Paul. J'ai même plus envie d'aller au boulot. Même plus envie d'aller au piquet de grève. Même plus envie de continuer à vivre.
Non, Cédric. Tout n'est pas perdu. Pensez à votre petite fille. Comment s'appelle-t-elle?
Léandrine. C'est bizarre, hein, comme prénom, trouvez pas ?
C'est original, mais Léandrine, ça sonne bien. Elle est comment ? Blonde ? Petite ?
Blonde, blonde comme sa mère, toute fine, toute en longueur, avec des joues toutes rondes, petite poupée.
Et elle a quel âge ?
8, enfin 7 et demi. C'est l'enfant de l'âge mûr. Je sais bien qu'il faut être con pour faire un gosse passer 45 ans, mais Sylvie n'avait que 37 ans, alors, on voulait une fille pour changer. Puis on se posait pas toutes ces questions à ce moment-là.
Vous avez revu Léandrine ou Sylvie depuis ?
Ah non, ni l'une ni l'autre, hein. Ni personne d'autre, pas même les garçons. Peut-être qu'ils ont autre chose à faire, peut-être qu'ils pensent que je ne vaux plus rien d'ailleurs. Ils n'ont pas tort. Hein.
Non, Cédric, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous avez lutté pour arriver et vous en étiez avant la catastrophe. Vous avez élevé une famille, construit une maison, offert un foyer douillet à tous. C'est juste une mauvaise passe. Tout le monde connaît une mauvaise passe, un jour ou l'autre. Mais vous, vous allez rebondir. Vous devez rebondir. Vous avez les tripes, la volonté. Il ne vous manque que la motivation. Et la motivation, ça doit être Léandrine. La petite main de Léandrine qui vous faisait coucou à la vitre arrière.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Mon boulot qui m'échappe. Ma femme qui m'échappe. Ma maison qui m'échappe. Mes enfants qui m'échappent. Mais tout fout le camp.
Pas du tout. Au contraire. Maintenant que vous avez fait le compte de tout ce qui risquait de vous manquer, relevez les manches et rattrapez une à une toutes ces choses qui s'échappent. Cédric, debout. Prenez une bonne douche, rasez-vous, enfilez votre plus bel habit et repartez à la conquête de votre vie. Vous êtes un chevalier blanc et Léandrine guette votre venue depuis l'eau de sa tour. Sylvie aussi, j'en suis sûre. Vous m'entendez ?
Ouais. C'est joli votre histoire. Alors je prends mon épée, je casse la gueule aussi à métal au banquier.
Si ça doit vous aider à tenir debout, pourquoi pas ? À un homme debout, rien ne résiste. Il suffit de vouloir et tout devient possible. Essayez au moins, au lieu de rester terré dans votre fange à vos Montfort et à accuser le monde entier de vos malheurs. Debout, à cœur vaillant, rien d'impossible.
Ah, vous êtes une spécialiste des moulins à vent et des châteaux en Espagne, non ?
Quoi ? Vous ne croyez pas en vous ? Il n'y a plus rien dans vos tripes ? Ou vous avez coupé les...
Ouais, ok. Je vais enfiler mon armure de chevalier blanc, attaquer le château de mon beau-père pour en tirer la princesse Léandrine, et peut-être la princesse Sylvie, si elle veut bien me suivre.
À la bonne heure. Ça fait chaud au cœur d'entendre de tels mots. Ami Cédric, vous êtes sur le bon chemin. Ne le quittez plus.
Au revoir, Anne-Marie. Merci pour tout, vous m'avez bien aidé.
Ouf ! J'ai bien cru que j'en sortirais pas. Faut dire que déjà, en temps ordinaire, c'est loin d'être un marrant. Mais là, maintenant que l'usine ferme, il devient pénible. C'est pas que je l'aime pas, mais un gros bof. Ça reste toujours un gros bof. Même déprimé.
Pourquoi ? Tu le connais ?
Bah oui, c'est le beau-père de ma fille. Remarque, le gendre n'est pas vraiment mieux. Les affaires reprennent. SOS Nuit, Anne-Marie, à votre écoute.
C'était SOS Nuit, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec, par ordre d'entrée en onde, Anne-Marie Sylvie Leblanc, Cédric Charlonce, la collègue Marie Collin. Les scénarios, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, Lucas Gindabo. C'est une coproduction RCN et réédition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou écouter les pièces précédentes. Et à ce propos, grande nouvelle, le recueil de la saison 1 vient de paraître, avec les textes, et puis même un CD avec 2h40 de théâtre à réécouter ou réécouter. Vous pouvez le commander sur le site de Neria, www.neria.com. D'ici quelques jours, vous pourrez écouter cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou celui de Neria Édition. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin d'année, un bon réveillon, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, et ouais déjà, le 23 janvier 2014, même heure, même onde, pour une nouvelle émission des Trois Coups. Au revoir.